Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Et tous et bienvenue dans le Collimateur pour un nouvel épisode dans le bunker, un épisode consacré aux films ou aux séries qui touchent à la guerre ou au monde militaire d'une manière plus générale. Aujourd'hui avec Léo Perea Peignier, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRE, donc bonjour.
Bonjour.
Pour parler d'un film, une sorte de petit bijou qui a une décennie maintenant, je dis ça au degré 1,5 exactement, le Battleship de Peter Berg, avec notamment Alexander Skarsgård, qu'on a vu depuis dans The Northman notamment, Liam Neeson ou encore Taylor Kitsch, et surtout, j'allais oublier, Rihanna dans un rôle de sous-officier assez intéressant, qui est un film, alors on peut dire que c'est une distribution assez étonnante, avec un rôle-titre qui est tenu par quelqu'un qui était assez inconnu à l'époque, Taylor Kitsch, qu'on a vu essentiellement dans la série américaine Friday Night Lights, où il a d'ailleurs probablement rencontré le réalisateur Peter Berg, qui était à l'origine de cette série. Peter Berg qui a fait des choses intéressantes, notamment du point de vue de la réalisation, notamment le film Hancock de 2008 avec Will Smith et Charlize Theron. Enfin bon, bref, qui a joué dans plein de choses, notamment aussi dans le film Collateral de Michael Mann, qui est un acteur assez reconnu et un réalisateur de plus en plus intéressant. Pour un film qui est difficile à décrire, je cherchais une comparaison et je me disais en fait c'est une sorte de mélange, de mi-chemin entre Pearl Harbor et Independence Day. Et c'est pas mal. C'est un film donc, je vais résumer le plot, c'est bon, les extraterrestres débarquent, et évidemment ils débarquent à Hawaï, et donc ils tombent sur une flotte d'alliés qui se trouvent être en train de faire des exercices, et qui donc sont confrontés à trois navires venus de l'espace, et donc à devoir confronter des équipements modernes, des frégates et des destroyers modernes, à des navires extraterrestres, et évidemment dans un premier temps ça se passe pas hyper bien, mais ça s'améliore à la fin. Alors dites-nous peut-être Léo Perea-Peignier, je veux dire, c'est un film, je l'avais vu à l'époque, il était marrant, il était sympa, et en même temps on peut tout à fait s'endormir devant, mais mais ça c'est un film que je peux pas, faut vraiment que j'attende que quelqu'un me le propose, parce que je peux pas sans rougir demander à quelqu'un s'il a vu Battleship et s'il veut en parler. Mais vous, il se trouve que c'était une sorte de passion coupable, honteuse, m'avez-vous dit hors micro, et que par ailleurs ça renvoie un peu, alors vous étiez récemment dans le podcast, enfin il y a quelques semaines, pour parler des stocks militaires, et le fait est que ça rejoint certaines des préoccupations. Mais alors dites-nous peut-être, Léo, qu'est-ce qui vous a intéressé donc dans ce Battleship de Peter Berg de 2012?
Alors c'est un film que je devais voir à peu près tous les ans, voire tous les semestres, quand j'étais au collège et au lycée, parce que c'est de côté très décérébré, mais en même temps très drôle et souvent parodique du film me touchait déjà. Mais il s'avère que là, très récemment, donc j'ai publié une étude sur les stocks des armées françaises, et je parlais beaucoup de qu'est-ce qu'on faisait de notre vieux matériel, qu'est-ce qu'on stockait, est-ce qu'on pouvait le remettre en service. Et une ou deux fois, j'ai souvent des militaires d'ailleurs qui me disaient « Ah oui, c'est comme dans le film Battleship !» Parce qu'il faut savoir qu'à un moment dans ce film, je pense qu'on peut spoiler, le film a 10 ans, les navires principaux humains étant détruits.
En fait, si on regarde les 5 premières minutes du film, on a déjà tout à fait deviné où ça va. Il y a pas de souci.
Très rapidement, en gros, les navires humains sont détruits. Il reste un ennemi principal et ils doivent trouver un moyen d'aller les combattre. Donc, ils sont à Pearl Harbor. Évidemment, il y a là le vieux cuirassé Iowa qui traîne là en tant que navire musée depuis des années.
En l'occurrence, c'est le Missouri.
C'est pas un truc de la classe Iowa?
Ah oui, pardon. Iowa, mais
on s'en fout. Le Missouri, quoi. Le cuirassé Missouri qui dort là depuis quelques années en tant que musée. Et avec l'aide d'une bande de tontons flingueurs, de vétérans de la marine, ils le remettent en service en 2 heures et vont exploser le vaisseau adverse avec les merveilleux canons du Missouri. Et donc beaucoup de gens me disaient « Ah oui, ton étude là, c'est un peu comme dans Battleship où ils réutilisent un vieux truc, ils le remettent en service. » Et ça m'a rappelé vraiment des très bons souvenirs, très nostalgiques de ce film que j'avais beaucoup aimé. Et donc très récemment, je me suis dit « Vas-y, il est sur Netflix, regarde-le. » Et j'ai pu profiter pendant 1h40 d'un spectacle complètement décérébré, mais peut-être moins qu'on ne pourrait le croire quand on parle de gros blockbuster. Pour le décrire, je pense qu'on a essayé de l'écrire tout à l'heure, je pense qu'il faut voir le projet. Je pense que c'est un projet extrêmement cynique à la base, à savoir Hasbro, la boîte qui produit des jeux de société ou des jouets, qui est producteur du film, ou coproducteur, qui a rencontré un type qui s'est dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aime les gros canons et les cuirassés !» Et les deux, ensemble, se sont donné donc des budgets, du temps et des moyens pour faire ce film, qui est à la fois très cynique, tout simplement parce que c'est en gros une pub d'une heure 40, voire plus, pour le pack de bataille navale que Hasbro peut vendre. Et en même temps, on sent que le réalisateur se fait un énorme plaisir à faire ce film-là, très loin de l'intention mercantile de base. Quoi.
C'est quoi le pack de bataille navale, vous voulez dire, des jeux de société?
Le vieux jeu bataille navale, D1 croiseur coulé, et en gros, Hasbro avait refait pour l'occasion des packs plus modernes d'un jeu qui est quand même très vieux. Voilà. Alors qu'à mon sens, il aurait mieux fait de vendre des modèles réduits du Missouri ou des vaisseaux aliens, ça aurait beaucoup mieux marché, parce que j'ai pas l'impression que de voir beaucoup plus de jeux de bataille navale qu'avant dans les magasins.
Mais alors on peut dire, c'est vrai... C'est-à-dire, c'est un peu l'époque, c'est entre l'époque Marvel et l'époque Transformers. C'est en termes de blockbuster et de trucs comme ça. Et de ce point de vue-là, c'est bien, quoi. C'est-à-dire, ça tranche un peu avec la qualité de ces autres films, qui pourtant ont été des cartons bien plus énormes. Mais c'est un film qui a un certain sens de l'humour, pas toujours à cet ordre de rire, hein, mais qui surtout... En fait, vous me disiez, enfin, vous m'écriviez en me proposant ce film qu'il y a un traitement du fait naval et de la bataille navale sous un côté qui n'est pas historique. Enfin, je veux dire, il y a des Midway, il y a des trucs comme ça, même par là-bas. Enfin, il y a des films à gros budget sur essentiellement la guerre du Pacifique. Mais ça, c'est pas ça, c'est un autre genre. Et il y a un vrai intérêt pour ce que c'est que se battre sur mer.
Tout simplement, je pense que des films de science-fiction à gros budget, de romans de science-fiction qui se passent déjà sur mer, il y en a assez peu. On peut éventuellement penser à Waterworld, mais je pense que ça va s'arrêter assez vite. Et là, vous avez donc des navires modernes et anciens qui se battent contre des aliens, et vous avez, je trouve personnellement, un amour de ce qui est filmé, d'un amour du bateau, qui n'est pas filmé comme un tout filmé d'un peu loin, non, ça filme les coursives, ça filme les consoles de tir, ça filme la passerelle, ça filme tous les différents ponts, enfin, et des détails même que je pense qu'on n'a jamais vu dans un film. Quand ils se mettent à réactiver le vieux cuirassé, on les voit qui redémarrent les machines, on les voit qui sortent les gargousses de poudre qui vont servir à propulser les obus, enfin, tous ces éléments-là, j'ai pas l'impression de les avoir vus avant, ni de les avoir vus depuis. Donc on sent quand même qu'au moins le metteur en scène dans ce qu'il filme aime ce qu'il filme, et il est communicatif dans ce sens-là. Le film est bourré de défauts, mais au moins on peut pas lui renier d'apprécier ce qu'il filme, même si il est évident qu'un marin qui voit le film aura sûrement des milliers de choses à redire sur comment c'est traité et comment c'est probablement totalement irréaliste. Néanmoins, je trouve que ça reste quand même, de ce point de vue-là et de certains autres, d'une bonne qualité. Là où un film comme Transformers, qui est pareil, un très gros film d'action, très bourrin, a des défauts que ce film-là n'a pas. Par exemple, le traitement des personnages féminins dans Transformers, il est quand même, surtout dans les premiers, je suis pas sûr que ce soit beaucoup amélioré dans les derniers.
Je peux pas vous garantir, je les ai pas tous vus.
Voilà, moi non plus. Mais je me rappelle des premiers, je me rappelle d'un des films qui commence quasiment sur l'arrière-train de son actrice principale, quoi. C'est pas vraiment ça. Vous avez Rihanna qui joue un sous-officier. Bon, Rihanna qui a dû poser ses conditions en tant qu'actrice, hein, mais à aucun moment elle est sexualisée. Elle a ses moments.
C'est très étonnant, effectivement, maintenant que vous le dites. Rihanna, qui est quand même une des femmes qui a été les plus sexualisées depuis une décennie, ne l'est absolument pas. Elle est toujours en uniforme plus ou moins réglementaire. On ne voit absolument rien, contrairement à l'autre actrice principale qui joue la petite amie du personnage principal. Qui, bon, elle est nettement plus sexualisée.
Oui, et encore, quand on regarde le film, c'est surtout les gens dans les 10 premières minutes quand ils se rencontrent avec Kitsch. Et assez vite, ça devient, c'est une kiné qui s'occupe de vétérans. D'ailleurs, ça me permet d'aborder un autre élément. Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui une inclusivité dans ce film, qui peut être assez surprenante pour un film avec une ambition pareille, qui date de 2012. Vous avez donc deux personnages féminins qui sont des personnages forts, sans être des personnages forcément centraux. Vous avez une attention qui est portée assez vite sur un personnage qui est représenté comme un vétéran Kujat, au sens où il lui manque les jambes. Il s'avère que ce personnage-là, l'acteur, est un officier de l'US Army qui a été blessé en Irak et qui a perdu ses jambes en Irak. Donc vous avez une attention à ces détails-là, c'est pas seulement, pour reprendre un certain vocabulaire, mais le mâle blanc triomphant, quoi. C'est, vous avez un ensemble qui est quand même assez surprenant. Vous avez même un roux. Outre ça, ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est que l'ennemi extraterrestre n'est pas l'ennemi absolument tout-puissant, comme dans, je ne sais pas, il n'est pas tout-puissant pendant 90% du film, jusqu'à la fin où il enchaîne les erreurs qui font qu'il perd. Pourquoi les aliens atterrissent à Hawaï? C'est parce qu'en rentrant dans l'atmosphère, ils ont 5 vaisseaux, il y en a un qui s'explose dans un satellite, et qui va s'écraser des milliers de kilomètres plus loin, à Hong Kong. Et en fait, il s'avère que ce vaisseau, on nous fait comprendre que c'est leur vaisseau de communication, ils ont donc perdu leur communication, ils atterrissent à Hawaï, parce que sur place, il y a un système qui leur permettra de communiquer avec leur planète, et d'appeler leurs camarades. Donc ça, déjà, ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, on s'aperçoit que, d'abord, ils sont pas forcément assoiffés de sang, tout simplement parce que la première confrontation avec les aliens, elle est assez longue, au sens où les aliens ne tirent pas s'ils se sentent pas menacés. Leurs armes, elles sont assez rudimentaires, on peut voir ça comme une espèce de lance-grenade navalisée. Après, c'est intentionnel, vu que les pions, enfin les grenades ressemblent beaucoup aux pions utilisés dans le jeu de bataille navale de Hasbro. Mais il n'empêche, c'est pas le rayon de la mort qui vient détruire la Maison Blanche d'Independence Day, si vous voulez.
Après, ils ont des trucs un peu plus fun, des espèces de roues chaînées et tout, qui rebondissent partout et qui défoncent des hélicoptères. Bon, il y a des trucs marrants quand même, hein, au bout d'un moment.
Oui, mais tout à fait. Mais justement, donc, à un moment, donc, il y a trois espèces de boules de la mort qui sortent du vaisseau principal, et qui, là où un autre réalisateur en aurait fait sortir 200 et rasé intégralement Hawaï, là, il les envoie sur la base navale, il n'y en a que trois, et elle s'occupe de détruire, en gros, les moyens militaires de la base navale et les moyens d'accès à la zone que les extraterrestres veulent contrôler. Donc, à mon sens, c'est assez intéressant, puisque non seulement ces extraterrestres-là sont faillibles, on voit, par exemple, qu'ils récupèrent à un moment un corps d'alien qui traîne dans l'eau, et ils disent « Ah bah oui, leur transport, il s'est écrasé ». Vous n'avez pas un ennemi qui est surpuissant, omniscient, et qui commet des erreurs. Et à mon sens, c'est assez rare pour être souligné, et ça permet de s'attacher un petit peu plus au film, de faire des rebondissements qui sont un peu plus intéressants.
Oui, on va pas on va le défendre dans une certaine mesure quand même, on va pas s'attendre, c'est pas l'équivalent d'un
Je me rappelle du collimateur sur Top Gun, je pense que j'ai le droit de défendre le film que j'aime aussi.
C'est vrai. Non mais bon, on va dire, c'est pas un chef-d'œuvre de réalisation, c'est pas un chef-d'œuvre non plus de réalisme. Bon, ça vous me direz, les films où il y a des extraterrestres, c'est toujours un peu comme ça, mais, et encore, là, c'est-à-dire ça se passe dans une sorte de passé imaginaire, puisque je crois que c'est censé être en 2005.
C'est pendant les RIMPAC, il me semble, c'est les RIMPAC de 2012, non je sais pas, il faudra le revoir
peut-être,
encore une fois, je le
ferai. Non mais c'est compliqué, parce qu'au début, ils disent qu'il y a une communication qui a été établie avec les aliens en 2005.
Il y a plusieurs temporalités.
Ouais, enfin, il y a des temporalités qui se percutent, et il y a des... Mais c'est intéressant parce qu'on se demande au demeurant quelle peut avoir été la participation de la marine américaine pour ce genre de choses, parce que ils filment des trucs qui sont un peu futuristes, mais en même temps qui ont l'air assez adéquats sur, par exemple, les tableaux de commandement, les tableaux tactiles de comment définir des cibles, etc. Et puis, bon, on va le dire quand même, ils font n'importe quoi avec les navires et les capacités des navires, ils leur font faire des dérapages, etc. Enfin bon, ça, du coup, c'est assez fun. Mais il reste que c'est... disons, il y a un décor, pas kaki en l'occurrence, mais gris et bleu, pour avoir un film d'extraterrestre assez courant quand même, sur on leur tire dessus autant que possible, ça marche pas, ils nous défoncent, et puis quand même, à la fin, on va y arriver.
Ah, mais pire que ça, c'est que quand je dis que c'est un projet qui est très cynique de la part d'Hasbro, ça se vérifie à tous les points. C'est qu'en gros, les extraterrestres mettent l'île d'Hawaï sous un dôme de protection qui isole donc trois navires du reste de la flotte, ce qui explique qu'il n'y a que trois navires face aux extraterrestres. Et vu comment déjà ils galèrent contre trois navires, qu'est-ce que ça aurait été contre toute la flotte? Mais surtout, en gros, le dôme désactive les radars, le guidage radar, tout ce qui est utilisé pour utiliser les capacités modernes des navires, qui il leur reste en gros leur canon principal et des armes individuelles. Mais ça, c'est utilisé au début pour le scénario, mais surtout c'est utilisé pour permettre à un moment au personnage principal d'utiliser une solution complètement farfelue, mais qui est censée être une mimique, si vous voulez, de la bataille navale. En gros, ils ont un quadrillage sur leur carte. À un endroit est censé se trouver un adversaire et ils disent ok, il faut tirer en telle position. Bon, je pense que c'est complètement débile comme idée, parce qu'on voit très bien que c'est forcé au possible.
C'est très compliqué à expliquer, mais en même temps, quand on voit le film, c'est très évident. En gros, ils ne les voient pas, donc ils sont obligés de tirer à l'aveugle sur une case, enfin sur une coordonnée GPS, en anticipant le déplacement du navire, voilà, du vaisseau extraterrestre.
Pour faire encore plus précis, c'est simplement l'officier japonais, parce que oui, il y a beaucoup d'officiers japonais dans ce film, qui a été recueilli après le naufrage de son navire, leur explique que la marine japonaise détecte les navires américains en s'appuyant sur les balises anti-tsunami qui sont un quadrillage de balises, je sais même pas s'il existe, un quadrillage de balises dans tout le Pacifique, qui, dès qu'il est frappé par une vague plus grosse que les autres, va envoyer un signal. Et grâce à ça, ils disent qu'ils peuvent détecter les trois navires extraterrestres qui se promènent. Bon, c'est débile, il n'y a pas de doute, mais ça permet de justifier ce pourquoi Hasbro donne l'argent, en fait, entre guillemets. Après, une fois qu'ils ont perdu leur navire, ils vont donc réactiver le Missouri.
Ouais,
et là, c'est le festival.
J'allais dire, c'est ça qui est intéressant et qui rejoint la note que vous avez faite et l'émission aussi qu'on a faite à ce sujet-là. C'est que ça joue quand même sur un imaginaire qui est un peu l'imaginaire... un peu Space Cowboys pour transposer dans l'espace, et un peu le truc le plus utilisé de tout le cinéma américain, c'est une dernière mission pour les vétérans. Et du coup, là, ils ressortent le vieux cuirassé qui date des années 70, j'imagine. Non, plus
Le Missouri, je crois que c'est le... Alors, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est le cuirassé sur lequel le Japon a signé sa reddition en 45. Donc, c'est-à-dire, c'est... Après... Ce qui est intéressant...
Ouais, il n'a pas été décommissionné tout de suite.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de ces cuirassés en soi. Pourquoi ce film existe aussi ? C'est parce que le décommissionnement des cuirassés a été un objet médiatique pendant très longtemps aux États-Unis. Et jusqu'à la fin des années 2000, il me semble, vous aviez encore une filière pour permettre à la marine américaine de réactiver entre 2 et 4 cuirassés, il me semble, avec un investissement industriel spécifique pour produire les obus nécessaires. Sachant que ces cuirassés avaient déjà été modernisés et remis en service par Reagan... on avait fait des espèces de super lance-missiles, et qu'en 91, il me semble, pendant Tempête du désert, il y a des cuirassés donc assez anciens, modernisés, qui ont envoyé des obus sur les positions irakiennes. Bon, ils se sont aperçus après que c'était moins efficace et deux fois plus cher que d'envoyer un Tomahawk, mais on voit que ça a été une question. Donc, ce film, il sort pas non plus de nulle part.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est du coup, il y a le côté imaginaire de la réserve, des solutions bien éprouvées, et de tout cet arsenal de la démocratie, si on veut, enfin de la Seconde Guerre mondiale et dans la foulée, qui n'existe plus, on est passé à autre chose de mieux, plus moderne, et en même temps pourrait quand même être là si on en avait besoin, quoi.
Ah, puis, à mon sens, j'ai envie de donner envie aux gens de voir ce film, parce que vraiment, c'est un détour pour une très bonne soirée du samedi soir. Ils arrivent, ils viennent de perdre leur bateau, ils sortent de la flotte, ils montent sur le Missouri, parce que le chef leur dit « on pourrait peut-être l'utiliser », mais ils savent même pas comment faire. Et l'officier technicien leur dit « Mais je saurais même pas comment allumer les chaudières. » Et là, vous avez l'intro de Thunderstruck de AC/DC qui commence à retentir. La caméra fait un mouvement trop bizarre et vous voyez tous les vieux matelots, les papys de 70, 80 ans qui arrivent au ralenti avec leurs lunettes de soleil. Et on les voit, genre, ça dézoome petit à petit. On voit qu'ils sont montés sur les tourelles, ils sont montés partout. Genre, ils font du posing de comics, littéralement. Et là-dessus, le vieux arrive, il serre la main de manière extrêmement virile à Kitsch, et lui dit « T'as besoin de quoi, gamin ?» Et Kitsch lui répond « Oh bah, sauf votre respect, sœur, j'aimerais bien emprunter votre navire. » « What do you need, son ?»« I need to borrow your boat. » Stand there staring at me. Get your goddamn Iron X spotter. Iron spotter, sir. Been working on a destroyer, haven't you?
Yes, sir.
Are you ready to play with the big boys?
Oh, yes,
sir. Come on, we need the help.
Et après, ça part sur un montage, genre training montage à la Rambo, où on voit les vieux et les jeunes qui bossent ensemble dans le Missouri. Ils dégagent les machines à souvenirs, ils dégagent tout ça, ils coupent les ancres et tout. ils remettent en service le navire. Et moi, j'adore cette scène. Et pareil, c'est tous les excès de cette époque. C'est quand ils arrivent en position de tir sur l'adversaire. Bon, ils se la jouent stratège chinois en disant « Oui, il faut se battre là où l'ennemi n'est... » Enfin, il faut que l'ennemi... Enfin, voilà, une situation de Sun Tzu qui est complètement sortie de son contexte.
Oui, de toute façon, personne n'a jamais rien compris vraiment à Sun Tzu.
Oui, voilà.
Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, et ça, c'est pas faux.
C'est, il dit « Ouais, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire », et l'officier japonais lui dit « Non, vous en êtes très loin, vous n'avez rien compris. » Et on sent qu'il y a quand même un degré d'autodérision qui est quand même présent. Et en gros, il veut essayer de prendre le navire adverse par la gauche, et pour pointer ses canons au bon endroit, il fait comme dans Pirates des Caraïbes 1, quelques années plus tôt, il largue son ancre, ça fait faire un pivot à 90 à tout le cuirassé en moins de 5 secondes, et là, il peut lâcher une bordée sur le navire en face, et vous avez cette citation qui est la grande citation du film, qui est un vieux qui observe le bateau ennemi à la jumelle et qui dit « Largons un peu de plomb sur ces lopettes !» Mais c'est incroyable, enfin, c'est tellement over the top comme délire que c'est génial. Et là, vous avez tout ce festival. Enfin, ils disent qu'ils ont très peu de munitions, mais alors, par contre, pendant un montage de 10 secondes, ils envoient chaque tourelle de 3 canons peut tirer 8 obus à la minute. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est vraiment, parce que bon, s'il y a bien un truc, c'est que ça se charge pas quand même tout seul, les obus.
Surtout quand le chargeur a 80 ans.
Ouais, c'est ça. Et là, ça a à peu près le même rythme de feu qu'un AK-47.
Ah oui, c'est très efficace. Puis voilà, enfin, il y a plein de problèmes. Mais et surtout, au dernier moment, ils arrivent à détruire le navire ennemi qui est en train de couler. Et là, on revoit les boulettes de la mort qui commencent à ressortir du navire, qui se précipitent sur le bateau. Et au dernier moment, vous avez les F-18 de la marine qui, puisque le navire a été détruit, le bouclier est down. Donc les F-18 arrivent, détruisent les sphères. Et là, on est reparti sur la grosse musique pompeuse à l'américaine. Juste, c'est tellement entier comme film, quelque part, que... on peut pas ne pas au moins apprécier l'effort, j'ai envie de dire. Je sais pas comment décrire ça.
Ouais, mais ça, surtout, enfin, par ailleurs, ça, c'est intéressant parce que ça joue sur une ligne de crête, pas technophobe, mais de... Il y a toujours ça de « Ah, c'est super les nouveaux équipements, mais en fait, c'est quand même les vieux qui marchent le mieux, etc. » De ce déloge de la rusticité, parce que bah, tous les nouveaux équipements qui fonctionnent avec des GPS, des radars, etc., ils n'arrivent pas à accrocher les navires, enfin les vaisseaux extraterrestres, alors qu'un bon canon de je sais pas combien, au moins quand on le pointe dans la bonne direction, ça va dans la bonne direction.
Et encore, bon, comme on disait entre nous, mais il y a un gun porn dans ce film qui est parfois assez gênant. Enfin, en gros, quand ils se préparent à aller casser l'extraterrestre, ils ouvrent l'armurerie du destroyer, et ils équipent tout le monde, et là, alors là, le bruit du bruit de culasse, il y en a, quoi. Pareil, enfin, ils utilisent des flingues en permanence, alors que même les flingues... Mais au final, ce gun porn est contrebalancé par le fait que souvent, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les extraterrestres en armure résistent aux balles, donc ça sert à rien d'avoir un petit calibre.
Et les vaisseaux, autant dire qu'ils résistent assez bien aux balles aussi, et quand même, on voit à côté des... Ils jouent tous avec du fusil mitrailleur et de la 12-7 en se disant que ça va percer le blindage. C'est fascinant comme truc.
Et en même temps, pour le coup du...
Enfin, c'est fascinant de ce que ça dit comme besoin de puissance, que la 12-7 ne confère pas un avantage militaire, notamment dans un film hollywoodien, il confère un sentiment de puissance.
Voilà, c'est plus une mise en scène. Vous avez à la fin une scène où ils sont en train d'arroser le bateau en face avec les canons de cuirassé, et vous avez quand même un plan de quelques secondes sur deux vieux qui sont à la 12-7 et ils tremblent autant que leur canon quand ils tirent, quoi. C'est incroyable. Mais en même temps, avant que le dernier navire moderne se fasse détruire, il y a ce moment où ils arrivent à piéger d'une manière un peu spécifique le dernier petit navire adverse. Et là, vous avez une scène en 3D qui est immonde, où on voit le destroyer sur le fond de soleil levant, qui envoie absolument tout ce qu'il a. Donc vous avez le Céram qui se met à tirer, le T-76, tous les Tomahawks sont balancés au même moment. Bon, ouais, c'est super kitsch, mais là, vous avez l'idée que ouais, c'est super puissant, quoi. Et au début, vous avez cette scène un peu bizarre où le héros est en retard, et il arrive sur le cuirassé Missouri pour une cérémonie, et il voit un gamin qui visite, et qui dit « Mais le cuirassé, il était mieux que les bateaux de maintenant ?» Et lui, qui est officier d'armement sur un destroyer, il est là « Ouais, mais non, mais tu comprends pas, le cuirassé, c'est trop bien, parce que ça encaisse à mort, mais le destroyer, il est là pour faire le boulot, et je crois, il emploie le terme, nettoyer le champ de bataille, quoi. » Bon, évidemment, il change d'avis petit à petit. Mais je pense pas que l'opposition entre l'ancien et le nouveau, elle soit aussi forte que ça. C'est un film qui est, outre son côté très over the top, est plutôt nuancé, en fait. Quand je disais que l'adversaire n'est pas le méchant absolu comme on peut voir dans des films comme World Invasion, Battle Los Angeles, un autre excellent film qu'on pourra éventuellement aborder plus tard, là, l'ennemi, il est pas très fort, en soi, il galère un peu, et il est pas super cruel. En gros, plusieurs fois, la caméra se met dans une vision d'extraterrestres, à travers leur armure, et on voit qu'en fait, ils identifient dans ce qu'ils voient, ce qui est potentiellement menaçant. Ce qui fait qu'à un moment, ils envoient le geek de service, qui n'est pas une énorme parodie, mais ils envoient le geek récupérer du matos qui leur permettra de contacter la Navy, et le geek tombe sur ce qu'on comprend être un ingénieur extraterrestre, et en gros, comme il est absolument pas menaçant, vu qu'il est taillé comme un phasme, qu'il est pas armé, qu'il est mort de peur, donc il bouge pas, bah en fait, on comprend que le mec l'identifie comme pas méchant. Et donc, il le laisse tranquille. Pareil.
C'est vrai que c'est pas si fréquent, les extraterrestres qui respectent le droit international humanitaire.
J'ai envie de dire oui. À un moment, en gros, ils ont récupéré le cadavre, ce qu'ils pensaient être le cadavre d'un extraterrestre parce que son transport s'est crashé. Il l'analyse, il l'étudie, il tripote son armure. Ses potes arrivent, font un bon gros trou dans la coque pour entrer et récupérer le corps. Et on apprend qu'ils ont laissé un mec qui s'avère être ce qu'on comprend vite être un soldat, en fait. Et là où n'importe quel film aurait fait en sorte qu'il pose une bombe, tout explose et plus de navire, non, là le mec, enfin l'extraterrestre, il va aux turbines et on comprend qu'il utilise un machin pour essayer de saboter les turbines. Bah j'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres... Enfin comme Han Solo pourrait faire sur l'étoile noire dans Star Wars. J'ai pas vu beaucoup de films faire ça honnêtement. Et très grand fan de science-fiction, j'en ai vu pas mal. Enfin...
Ouais, je voulais dire l'humanisation des extraterrestres.
Entre guillemets. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et en même temps, quand on disait que c'était un film qui est typique d'une époque, c'est un film qui est très post-Iron Man 1, donc après le début de la saga Marvel, mais qui n'est pas marvelisé, pas encore. En gros, vous avez cet amour des bidules technoïdes, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de plans, beaucoup de façons de filmer, notamment les armes des aliens, qui rappellent la scène où Tony Stark met au point sa deuxième armure, celle dans sa cave, là, celle tout argentée, qui est filmée de manière très spécifique, avec toutes les bidules technoïdes qui bougent, qui s'assemblent. Là, vous avez à peu près la même chose, vous sentez qu'il y a quand même cette filiation. De même que le film a digéré pas mal d'influences assez surprenantes. Bon, il y a une référence à Titanic, il y en a d'autres à beaucoup d'autres films, que d'autres metteurs en scène ne seraient pas forcément embêtés à faire. Ça a un côté très académique et peut-être risible, ou vain, mais c'est comme ça. Mais c'est là. Et d'autres ne font pas cet effort-là.
Très bien. Bah donc on recommande vivement ce Battleship de 2012. Battleship voulant évidemment dire cuirassé, on ne l'a pas précisé, mais c'est important parce que ça donne aussi un peu l'angle de l'histoire, de Peter Berg, sorti donc en 2012 et qui est donc une coproduction, on l'aura compris, avec Hasbro, le vendeur, la marque de jeux de société. Merci beaucoup Léo Perrier-Pignet. Bon, je peux renvoyer évidemment vers votre étude IFRI sur les stocks et puis aussi sur l'émission qu'on a faite ensemble à ce sujet il y a quelques semaines. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.